Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, il reste encore quelques jours de vacances, très peu, mais bon, tout arrive à une fin. Et il reste donc ces quelques jours où on peut visiter les châteaux du Périgord. Il paraît qu'il y en a 500. Et c'est le deuxième ou troisième département qui en compte le plus. Bien, alors on va voir un château qui est Rastignac. Alors, je disais qu'à l'instant que le château se visitait, je ne sais pas si Rastignac, on peut toujours y aller. Bon, j'y suis allé au moins deux fois. Et c'est un château un peu curieux. Alors, la paternité de ce bâtiment, je lis ce qui est inscrit sur un livre Château du Périgord, avec des photographies aériennes de Michel Bernard et des textes de Myriam et Michel Bernard. Voilà. Alors, c'est publié par Patrimoine et Médias et ça a été publié en 2011. Donc c'est pas très vieux. Et il y a de très jolies photos d'ailleurs, très jolies photos aériennes. Alors je reprends Rastignac, la paternité de ce bâtiment construit entre 1812 et 1817, mais dans un pur style du 18e, il est discuté. Pour certains historiens, il serait l'œuvre de l'architecte Mathurin Salat et pour d'autres, de Victor Louis. La façade du corps de logis rectangulaire est agrémentée d'un péristyle demi-circulaire à colonne ionique et la terrasse est ceinturée d'une balustrade à colonne. Alors, bien sûr, ce château ressemble beaucoup à la Maison Blanche de Washington et spécialement pour la façade sud, vue en plan. Alors la construction de la Maison Blanche étant postérieure de quelques années à celle de Rastignac, ce dernier aurait pu servir de modèle. C'est ce que certains historiens n'hésitent pas à penser, avançant comme preuve un séjour ici que fit Thomas Jefferson quand il était ambassadeur des États-Unis à Paris. Alors, c'est aussi la thèse soutenue par un reportage diffusé sur TF1 en octobre 2006. Alors, Il y a des châteaux alors là que l'on visite. Il y a Puymartin. Puymartin, c'est sur la commune de Marcaille, commune que je connais très bien. Alors Puymartin se dresse fièrement ses murs de pierre jaune, construits par les abbés de Sarlat en 1269, dans le moment des mercenaires anglais en 1358, pendant la guerre de Cent Ans, évidemment. Alors désarmés, ils furent reconstruits en 1450, et devint un foyer de défense catholique contre les protestants de Sarlat. Alors là, il est à peu près une douzaine de kilomètres. À la Révolution, le seigneur du lieu fut emprisonné et le château passé et était décidément et laissé à l'abandon à la fin du 19e siècle. Alors Puymartin est restauré dans un style néo-gothique par le marquis Marc de Carbonnier de Marzac. On raconte que sous le nom de Dame Blanche, fantôme d'une belle jeune femme vêtue de blanc, apparaît quelquefois la nuit aux habitants de Puymartin, souvenir de Thérèse de Saint-Clar, qui serait emmurée dans une de ses tours. Alors, bon, le château de Puymartin, je l'ai visité plusieurs fois. Quand quelqu'un vient en visite, c'est pas très loin de chez moi. Donc, on va le visiter. Je n'ai jamais rencontré, enfin, je suis pas allé de nuit, mais je n'ai jamais rencontré la Dame Blanche. Alors, bien sûr, il y a les incontournables de la région, qui est comme Comarque. Alors, Comarque, c'est un château un peu curieux, on se demande pourquoi il a été construit là, mais bon, je ne sais pas si on le sait exactement. Alors, le château de Comarque ainsi que son village ont été bâtis sur un rocher de la vallée de la Beune, sur un site déjà occupé depuis la préhistoire. Alors, desservi par un modeste sentier, à travers des bois, il était souvent appelé le château oublié quand il recevait peu de touristes. Alors, je dois dire que le château de Comarque, avant qu'il se visite, on y allait et on y allait faire par contre des photos de mariage. On a une très belle vue sur la vallée et sur la vallée des Beunes, sur le château qui se trouve en face, qui lui est habité, et on allait là faire des, comme je disais, faire des photos de mariage avec la mariée, bien évidemment. Alors, il recevait peu de touristes, à l'exception de promeneurs aériens qui ne peuvent eux s'arrêter que pour une petite visite. Alors, on est au XVIIe siècle, il a été repris en 1968 par Hubert de Comarque, descendant des créateurs du château. À ce moment-là, seule la chapelle et le donjon émergeaient des ruines et de la végétation. Alors, bien sûr, des travaux a été entrepris, il a été dégagé, et bien sûr maintenant, comme je dis, se visite. Alors, il y a une grotte qu'on ne visite pas, mais où il y a un ou deux chevaux qui sont sculptés dans la pierre, qui sont très jolis. Alors la chapelle Saint-Jean, une ruelle et de nombreuses maisons ont été dégagées et permettent aux visiteurs une bonne compréhension de la vie dans ce village fortifié, parce qu'il y a le château, mais il y a également des maisons tout autour et il y a une chapelle qui n'a plus de toiture. Alors, on a déjà vu la semaine dernière le château de Lanquet, mais il y a évidemment, alors là, on va se retrouver dans le Bergeracois un peu, le château de Montaigne. Alors, bien sûr, tout le monde connaît Montaigne, j'ai pas déjà parlé à ce micro, on en reparlera peut-être un jour, parce que son œuvre est indémontable et les essais sont toujours réédités. Alors, château de Montaigne, alors ces tours que nous apercevons au loin sont celles du château de Montaigne, situé aux confins du Périgord et du Bordelais, dans ce petit village de Saint-Michel-de-Montaigne. Dans cette maison forte du XIVe siècle, naquit et mourut Michel Ekem de Montaigne. Alors, il est né en 1533 et il décédera de la pierre en 1592. Alors, cette demeure, alors, bien sûr, c'était l'ami de la Boétie, qui est Sarladé, je connais bien la maison de la Boétie. Alors, cette demeure resta dans la famille jusqu'en 1811 et fut achetée en 1860 par Pierre Magne, ministre de Napoléon III. Alors, détruite par un incendie en 1885, elle fut reconstruite dans un style néo-gothique. Heureusement, la vieille tour ronde où se trouvait la célèbre librairie dans laquelle Montaigne, évidemment, élabora pendant plus de 20 ans ses essais, fut épargnée et nous est parvenue dans l'état où elle se trouvait à la mort du philosophe écrivain. Alors, il y a une deuxième tour ronde, plus petite, échappa aux flammes. Elle était occupée habituellement par son épouse, un passage aménagé dans le mur d'enceinte reliait les deux tours. Le site est au moins autant bordelais que périgordais, situé entre le vignoble de Saint-Émilion et ceux de Bergerac. Alors, il faut également signaler que Michel de Montaigne sera maire de Bordeaux, mais il quittera son siège, si je peux dire, face à la presse. Alors, il y a bien sûr plusieurs autres châteaux. Il y a le château de Bannes. Alors, le château de Bannes, mais qui se trouve à Beaumont, sur la commune de Beaumont du Périgord, alors, je ne sais pas si se visite, je ne crois pas. Alors, entre Bergerac et Sarlat, sur la route des Bastides, Bannes est l'archétype du château périgordais, juché sur un éperon rocheux dominant la vallée, d'œil immédiatement attiré par ce vaisseau de pierre, reconstruit au tournant des 15e et 16e siècles sur les ruines d'une forteresse féodale. Alors, Bannes pourrait évoquer le château de la Belle au bas dormant, ben oui, c'est un peu ça, à raison de sa silhouette féerique surgissant des frondaisons et de la fantaisie de ses toitures. Alors, il fut la propriété des Gontaubiron, puis des Los. Son histoire suit les épisodes mouvementés de la guerre de Cent Ans, puis des guerres de religion. Alors, quand on passe le pont-levis, qui existe toujours, trois corps de logis bordent une très belle cour intérieure. Les bâtiments renferment des pièces exceptionnelles comme la cuisine du XIIIe siècle, la salle des gardes, le grand salon et les appartements du roi Henri IV. Henri IV, bien sûr, passera à Périgueux dans sa fuite de Paris et demandera bien sûr que la ville ne soit pas saccagée. Et je ne sais pas du tout s'il est allé jusqu'au château de Bannes, mais on le retrouve un peu partout en Dordogne. Alors, bien sûr, il y a un des incontournables qui se visite, c'est le château de Beynac. Alors Beynac, bien sûr, c'est la commune de Beynac et Cazenac sur les bords de la Dordogne. Alors Beynac, c'est d'abord le magnifique petit village abritant sous la haute falaise calcaire, baigné par les eaux de la Dordogne, les rues pavées, les escaliers en pierre, usés par des millions de pas de ce parcours qu'à pied. Le quartier est situé au bord de la Dordogne, abritant le port, les différentes activités liées à la rivière, mais c'est aussi le très ancien château au sommet de cette même falaise qui avait marqué Isaac à portée du regard défendait la vallée contre l'ennemi héréditaire occupant juste en face Cateno-Feyrac. Ce site privilégié est occupé depuis très longtemps, des vestiges d'âge bronze y ont été retrouvés. Alors, bien sûr, il y a Castelnau qui se trouve de l'autre côté de la Dordogne et qui est bien sûr les gens de Beynac et de Castelnau ne s'entendaient pas forcément très bien. Alors, le château à l'origine, simple donjon, fut édifié au XIIe siècle par Ménard de Beynac. Après de nombreuses péripéties, il tomba en main de Simon de Montfort. Bien sûr, alors là, c'est comme je pourrais dire, la guerre de religion, tout ça. Et il tomba, bien sûr, comme je disais, aux mains de Simon de Montfort, qui le rasa. Alors, il fut rapidement reconstruit, il fut alternativement position française ou anglaise, avant de revenir définitivement à la France en 1368. Alors, les guerres avec Simon de Montfort s'arrêteront, bien sûr, en quelque sorte, sur les bords de la Dordogne. Alors, il ne fut jamais totalement abandonné, et cela contribua beaucoup à sa conservation. Racheté en 1961, fut remis en état peu à peu, selon une planification rigoureuse. Alors, étonné, un des châteaux les plus visités de la Dordogne et des bords, comment je pourrais dire, et des bords de la rivière. Alors, il y a aussi, bien sûr, un des incontournables, c'est les Milandes. Alors, les Milandes, c'est pas très loin de Beynac, d'ailleurs. Il faut passer par Castelnau. Donc, c'est l'autre côté de la Dordogne. Alors, il y a les Milandes. Alors, on va parler, bien sûr, du château. François de Caumont fut élevé à partir de 1489, un magnifique château surplombant la Dordogne, conçu sur le modèle des châteaux Renaissance de Touraine. Il reprenait le style de l'architecture italienne du moment. Il sera ensuite très remanié et restauré au XIXe siècle par Charles de Claverie, adoptant un style néo-gothique acheté en 1947, occupé vers la fin des années 1950 par Joséphine Baker. Alors, c'est la meneuse de revue et aussi grande résistante durant la Seconde Guerre mondiale. Il réalisa son rêve de village du monde en adoptant une dizaine d'enfants originaires de différents pays. Ruinée par sa générosité, elle dut quitter le domaine en 1969, après avoir tout tenté pour continuer son œuvre. Sous ses ordres, une bonne partie de la décoration intérieure fut refaite, mais la hardiment style art déco et à celui Renaissance d'origine. Aujourd'hui, le château abrite une rétrospective de la vie et de l'œuvre de Joséphine Baker au travers des documents d'époque, photos, affiches, costumes de scène, dans un décor même voulu par l'artiste. Le jardin à la française, revu aussi au XIXe siècle, invite à la promenade. Alors, c'est une très belle construction qui est à voir, ne serait-ce que pour le souvenir de Joséphine Baker, qui, depuis peu de temps, se trouve au Panthéon. Alors, bien sûr, il y a un des incontournables également, qui se trouve un peu plus loin, sur le bord de Lot-et-Garonne, c'est Biron, le château de Biron. Alors, le château de Biron nous dit que 24 générations de Gontaut-Biron sont succédées dans ce château depuis le XIIe siècle jusqu'à 1938. Durant 800 ans, de nombreux ajouts ont été apportés au donjon, qui reste le seul vestige du château initial remontant au XIe siècle. Alors, bien sûr, tous les styles de la grande époque architecturale y sont représentés. Une partie des maisons du petit château trouve un abri à l'intérieur même de l'enceinte du château. Outre les deux, la chapelle du XVIe siècle, dont la partie inférieure s'ouvrait directement sur la place du village de Biron. Alors, l'étage était réservé aux habitants du château. Aucune communication directe n'existait entre les deux niveaux. Alors, bien sûr, il y a un cimetière qui se trouve à proximité, et puis c'est le siège d'une des quatre baronnies du Périgord. Alors, donc ce château se visite, et il est très bien visité. Alors, quand on parle du château de Biron, ça me rappelle quelques souvenirs de jeunesse, non pas que j'allais jusqu'à Biron, parce que ça se trouvait quand même un peu loin de Sarlat. Voilà. Alors, mais seulement ça me rappelle quelques souvenirs parce que du film Le Capitaine. Alors, c'est un film d'André Hunebelle qui est sorti sur les écrans en 1960. Alors Jean Marais, alias le capitaine, est blessé d'un coup de pistolet, justement au château de Biron. Alors, soigné par une belle dame, il se rétablit rapidement. Et quelques jours plus tard, le batelier Cogolin, autrement dit Bourville, à Montpazier, sauve la bourse du capitaine. Bon, il va y avoir quelques péripéties. Et puis, à eux deux, ben, ils sauveront le royaume de Louis XIII, qui est tout juste majeur pour exercer cette fonction. Alors, je ne sais pas, je crois que c'en est ce genre de film qui repasse de temps en temps à la télévision. Donc, si vous pouvez voir Le Capitaine, eh bien, vous retrouverez le château de Biron et bien sûr Montpazier qui se trouve à proximité. Et sur ce, ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.